dispute. Ce soir, les séries. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Le Duo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Stéphane Desmonts. Réalisation signée à Sia Khalid. Ce soir, Iris Bray, Romain Burel et Antoine Guillot sont autour de moi. Notre affiche 10% saison 2, The Americans saison 5, Les Témoins saison 2. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler des nombreux festivals dédiés aux séries en France. Et puis bien sûr encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film Visite ou Mémoire des Confessions de Manuel de Oliveira, distribué par Épicentre. Nous ouvrons cette émission avec la saison 2 de 10%, la série que France 2 devait espérer depuis longtemps, qui fut pour la chaîne et pour 5 millions, voire un peu plus de téléspectateurs, une bonne surprise l'année dernière. La saison dernière, parce que c'était au début de la saison, donc ça fait 18 mois quoi, depuis la saison 1. Pour une fois, la chaîne française a justement compris qu'il fallait capitaliser sur ce succès. N'a pas trop attendu pour livrer une deuxième fournée, qu'on pourrait néanmoins trouver quand même bien maigre. Saison 2 avec 6 épisodes. On rappelle que le cœur battant de 10%, c'est une agence artistique qui représente des comédiennes et comédiens essentiellement, et que chaque épisode a au moins un acteur important jouant son propre rôle. Avec des résultats d'audience et le bon accueil critique de la saison, il a été plus facile de convaincre sans doute. Et on voit cette année Virginie Efira, Ramzi Bedia, Isabelle Adjani, Fabrice Duchini, Julien Doré, Guy Marchand ou encore Juliette Binoche.
Mais c'est qui le mec, on le connaît ?
1m75, assez poilu, jolies fesses, légère bouée abdominale.
Et mais c'est pas toi, Gabriel ?
Si c'est pas en pleine sortie du film, c'est pas bon pour nous, ça, pas bon du tout.
Mais au contraire, ça va faire du buzz. C'est croustillot, ça.
Oh, Noémie.
Je te parle pas de buzz, je te parle d'image. Des acteurs qui se déchirent, ça fait une promo catastrophique. Et derrière, un film qui se vautre. Bref, ça pue la poisse chez ASK.
On avait vraiment pas besoin de ça. Hein.
Pourquoi tu dis ça ?
Je viens de voir François Brillant en tête-à-tête avec Hélène Kerr, au Mansart. J'aime pas ça du tout.
Il veut nous racheter ?
Ce charognard de Brillant. Il coucherait avec Satan si ça pouvait nous mettre à genoux.
Bien, tout le monde est là ?
Tout le monde est là.
Ouais, bah, tu vois bien qu'on est là.
Bien. Depuis 6 mois, les difficultés s'accumulent. Les films ont du mal à se monter, on le sait. On a plusieurs gros contrats en attente. Ajouté à cela, l'encadrement des salaires des acteurs décidé par le CNC. Ah, bref, nos bénéfices sont plus faibles sur le premier semestre. Tout cela serait tout à fait viable si on n'avait pas dû sortir 500 000 euros pour le redressement fiscal ordonné par Madame Bonsillon.
Mais quoi, vous avez jamais eu de problème de coupe, vous ? Attends, bah alors si on va par là, Mathias, ça nous aurait bien arrangé que ta femme rentre au capital. Bon, bah, ça s'est pas fait.
En conclusion...
L'amour, c'est de la merde.
Si on veut tenir le coup, on n'a pas le choix. Au moins pour les 2 mois à venir, il faut réduire les salaires.
Pardon ? Les salaires de qui ?
Attends, de tout le monde.
Pas possible, en fait. Parce que moi, si on réduit mon salaire, je peux m'acheter à peu près une chouquette.
Non, mais pardon, on marche sur la tête. Là, faut pas coucher comme ça n'importe comment avec n'importe qui quand on sait pas s'y prendre. Il y a des règles.
Je suis bien d'accord, ouais.
Il y a des règles. Donc on baisse tous les cachets de la dispute, ce qu'il faut tenir jusqu'à la fin de la saison. Romain Burel, un
commentaire. Alors déjà avec ce qu'on gagne ici,
c'est énorme.
Peine d'avoir une chiquette, donc.
C'est de quoi remplir, mettre de l'eau dans votre piscine.
Exactement.
Hein, Romain, vous commencez sur cette saison 2 de 10%.
Ah déjà quelle bouffée d'oxygène cette série sur la grille du service public. C'est vraiment, enfin moi je considère que c'est la meilleure série française en ce moment concrètement. Je la trouvais patente. Je trouve qu'en plus on pénètre dans un milieu qu'on connaît pas du tout, qui est celui des argents artistiques de cinéma. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans une série télé, c'est quand elle vous fait découvrir un univers que vous ne connaissez pas.
C'est Maigret quoi, mais réactualisé.
Ouais alors.
Mais Maigret faisait ça très bien. Mais alors, moi, on découvrait des métiers.
Je déteste toutes les séries policières, je n'en peux plus.
Non mais les vieux Maigret, vous n'étiez pas là. C'était comme ça.
Donc ce qui est agréable là, c'est qu'on découvre un univers qu'on ne connaît pas.
Les ferrailleurs, les cantonniers, les cordonniers. Non, mais j'arrête de vous interrompre. Bon, d'accord.
Donc, je disais, un univers qu'on ne connaît pas. Et en plus, on sent qu'il y a un énorme travail de documentation, très malin, qui a été fait. Parce qu'on y croit, on pénètre dans cet univers en apprenant des choses, même quand on connaît un petit peu le milieu du cinéma. Pour le coup, moi, j'ai appris des choses, notamment sur ces histoires de cachets, etc. Et le travail est assez méconnu, donc, de ces agents.
Bon, pardon, ça s'arrête là, votre phrase. Non, je m'étonne pas. Non, mais parce que c'est vrai que si on connaît un tout petit peu, on peut dire que tel agent s'est exactement inspiré de tel réel agent. Enfin, on peut jouer au jeu de cette famille, ce qui n'est pas très intéressant. Antoine Guillot va se rapprocher de son micro.
Mais ça, c'est effectivement une série qui marche à plusieurs niveaux, selon le degré de connaissance que vous pouvez avoir ou que vous croyez avoir de ce milieu-là, puisque, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de guest stars, donc, et de plus en plus importantes avec la saison 2. Et la série joue beaucoup avec ce qu'on croit savoir de ces personnages. C'est-à-dire qu'elles arrivent vraiment à la fois avec leur passé cinématographique, mais aussi tout ce qu'on a pu raconter dans les magazines People et les apparitions même qu'elles font à la télévision, avec d'ailleurs des télescopages étonnants. C'est-à-dire qu'on verra prochainement Juliette Binoche jouant un rôle sans doute inspiré aussi de Sophie Marceau. Tout ça se mélange et s'intrigue sans arrêt, de manière plus ou moins efficace, d'ailleurs, selon le degré d'épaisseur fantasmatique des invités dedans. Vous avez volontairement sans doute oublié de citer Norman Taro dans les
guest stars. Ah non, pas du tout. Ah ben alors je m'en veux, mais moi je l'ai vu son one man, j'ai trouvé formidable.
Invité, et bien justement, j'ai trouvé que l'épisode 3 dans lequel on a à la fois Julien Doré et Norman Taro qui viennent d'un autre univers qui n'est pas celui du cinéma, mais qui est celui soit de la télé, soit d'internet, fonctionnait moins bien parce qu'il n'y avait pas cette épaisseur à la fois fantasmatique et mélancolique, parce que la série est extrêmement mélancolique aussi sur ce qu'est le cinéma aujourd'hui, comment il se démène pour exister, alors que l'impression générale que ça donne, c'est quand même un milieu qui est en train un peu de mourir, de disparaître. Il y a quelque chose de très triste et drôle aussi, aussi dedans, y compris sur des acteurs vieillissants, comme l'épisode avec Guy Marchand ou celui avec Fabrice Luchini, qui joue aussi beaucoup sur le regret de tout ce qu'on n'a pas fait. Même il y a un épisode avec Isabelle Adjani où elle regrette en disant, moi je ne suis jamais allé chercher un réalisateur pour un rôle, bah, peut-être que j'aurais dû. Et quand on a de l'humour sur soi, ce qui semble être le cas de manière assez surprenante, justement, de personnages comme
Isabelle Adjani,
comme Isabelle Adjani, qui est vraiment formidable dedans, et ben je trouve que ça passe moins bien avec des petits jeunes comme des Taro ou des Doré qui essayent de jouer l'auto-dérision, mais qui sont déjà dans un registre comme ça quand ils sont apparus, que ce soit La Nouvelle Star ou sur Internet. Et finalement, ça prend moins, sans doute parce que voilà, il n'y a pas assez de passé et d'épaisseur sur lesquels s'appuyer. J'ai trouvé, c'est d'ailleurs la seule chose que j'ai trouvé décevante. Enfin, il y a aussi d'autres problèmes dans la série cette année, mais l'épisode 3 voilà, marque un moment de creux, il me semble, à cause de ça.
Mais peut-être que vous n'êtes pas tout à fait la cible, ce n'a rien d'offensant quand je dis ça, parce que je pense que ça s'adresse plutôt aux plus jeunes, beaucoup plus jeunes, même Iris Bray, c'est pour dire. Ça s'adresse plus à mes filles qu'à nous, en gros, pour aller vite. Et je regrette de ne pas avoir cité Norman Taro, parce que je pense qu'il est effectivement absolument dans de ce qui répond à ce que vous disiez sur la projection fantasmatique, sur ce qu'il représente, etc. Et que cet épisode 3, qui vous a paru plus faible, joue vraiment là-dessus. Au contraire, et donc, mais c'est peut-être pas la même cible de public qui est visée, Iris Bray.
Alors, sur ça ou sur autre chose. J'ai l'impression d'être la cible quand même visée malgré mon âge. J'ai l'impression
votre que âge très avancé très par avancé, rapport à Norman.
Par rapport à vos filles peut-être.
Oui.
Mais moi, je rejoins totalement Antoine. Je trouve que la série est intéressante quand elle s'interroge sur le cinéma. C'est-à-dire que d'avoir une série qui fait un discours sur le cinéma, l'épisode 6 pour moi est vraiment le plus abouti, parce qu'effectivement, quand on s'attaque à des mythes et qu'on en fait autre chose, là, le côté coulisses devient intéressant.
C'est Juliette Binoche et ça finit officiel de Cannes, pour décrypter ce que vous dites sur l'épisode 6, que les téléspectateurs n'ont pas encore vu.
Après, je rejoins Romain sur l'idée que du contemporain, en fait, c'est quand même, c'est vrai, c'est sur France 2, on parle de choses dont on n'a pas l'habitude de parler sur une chaîne du service public. Moi, j'ai été déçue cette saison vraiment par le personnage qui est joué par Camille Cotin, qui est un personnage, donc une femme qui est lesbienne, et je trouve que c'était quelque chose qui était très intéressant dans la saison 1, et là, je peux pas, donc du coup, trop révéler révéler. Mais je trouve que voilà, il y a, je trouve que les rôles secondaires, c'est-à-dire que les assistants des agents sont vraiment mes chouchous. On a l'impression que c'est les chouchous des scénaristes et ça se sent. Et je trouve que tous les premiers rôles là sont un peu en dessous. Et je trouve qu'il y a beaucoup de, il y a des grosses ficelles quoi. Et je trouve ça un peu dommage en 6 épisodes qu'on ait l'impression que qu'on ait besoin de ces grosses ficelles pour faire avancer l'intrigue, notamment donc d'Andrea, même si je trouve Camille Cotin absolument géniale comme comédienne et son ton et enfin tout quoi. Je trouve que son histoire à elle pêche et c'est dommage parce que ça, c'était une série quand même assez étonnante par sa représentation des personnages LGBT.
Alors plusieurs choses. Moi, je voudrais d'abord féliciter les guests de la saison 1. Sans qui, alors j'ai essayé d'oublier personne, je les ai notés normalement, c'était Cécile de France, Lynn Renault, Françoise Fabian, Nathalie Baye, Laura Smet, Audrey Fleureau, Julie Gaillet, Joë Starr, François Berléand, donc c'était quand même pas si mal pour une saison 1, mais c'est quand même grâce à ces gens-là que le succès a pris et que maintenant, effectivement, on a d'autres comédiennes et comédiens, et je pense que maintenant, c'est la production de 10% qui est assaillie de demandes d'agents, évidemment, des vraies personnes pour être dans la fiction des agents.
On attend la mise en abîme de cette question dans la saison 3.
Ça peut sans doute arriver, mais c'est vrai que Laure Calamy et Nicolas Maury, donc les deux assistants auxquels vous faisiez référence, alors qu'ils sont bien connus du monde du théâtre, hein, parce que c'est une des particularités d'ailleurs des bonnes fictions françaises que d'emprunter beaucoup. On va parler de Marie Dompnier tout à l'heure, mais même Audrey Fleureau, hein, sont des gens qui font carrière et qui sont connus du monde du théâtre et qui d'un coup arrivent dans ces productions télévisées séries et qui imposent quand même un type de jeu qui fait effectivement souffler un vent de grande fraîcheur. Nicolas Maury, ça fait longtemps que j'en suis fan, alors qu'elle a mis aussi. Et c'est vrai qu'on voit bien que... Je pense qu'un scénariste qui a sous sa plume des acteurs de ce tempérament, il a envie de les utiliser. Quoi. C'est normal, Romain Burel.
Alors, ce qui est très intéressant avec le personnage et le choix de Nicolas Maury dans cette série, c'est que c'était pas un choix évident. C'est un choix qui a eu beaucoup de débats, notamment entre Cédric Lapiche et la showrunneuse de la série qui s'appelle Fanny Herrero. Parce que lui voulait un personnage assez efféminé. Alors que Fanny Herrero était beaucoup plus dans quelque chose de plus doux et en disant voilà, je suis pas persuadé qu'il doit absolument montrer qu'il est gay dans ses manières, etc. Et Cédric Lapiche voulait absolument un personnage comme ça.
Cédric Lapiche qui a réalisé toute la saison.
Exactement. Hein, et ils sont tombés d'accord sur Nicolas Maury parce que il a une façon de jouer qui est d'un naturel déconcertant et il n'est pas cliché tout en étant effectivement hypersensible. Et je trouve que dans la deuxième saison, quand on le retrouve à dialoguer avec Ramsey, quand il est en train de lui expliquer qu'il a une vision un petit peu bourgeoise du couple, je trouve que c'est succulent de subtexte et c'est absolument prodigieux. J'adore ce passage-là.
De subtexte, alors là, il faut traduire le Romain Burel qui vit entre Los Angeles et Paris. Hein. Comme on le sait, le sous-texte, vous vouliez dire.
Exactement.
C'est ça, d'accord, mais j'avais compris de moi-même. C'était parce que c'était assez simple. Second rôle qui deviennent très importants, Iris Bray.
Oui, mais aussi je voulais rebondir en fait sur le fait que Cédric Lapiche ne soit plus là et que Fanny Herrero a réussi à être showrunneuse cette saison 2 et à s'imposer avec juste son nom. Je trouve que ça marque aussi un changement en France qui est important parce que donc au début la série a vraiment été vendue avec le nom de Clapiche pour essayer de que les gens regardent et je trouve que c'est génial que maintenant ce soit le nom de Fanny Herrero qui soit mis en avant et qu'elle ait voilà aussi un groupe de scénaristes très forts qui étaient déjà en séance de saison 1 et maintenant il va falloir je pense moi honnêtement je suis un petit peu déçue par cette saison 2, je pense que l'épisode 6 aurait dû être l'épisode 1. Je voulais ce niveau-là immédiatement, c'est-à-dire que l'épisode 6 pour moi est grandiose parce que ça raconte beaucoup de choses, ça va très loin et tout le subtexte, le sous-texte qu'on attend, il est là, il est dans l'épisode 6 et dans des dialogues très percutants, mais je trouve que pour moi le 3, le 4, le 5, oui, je me demande en fait ce qui s'est passé pour que notre personnage d'Andrea Martel termine comme ça.
Alors, ce qui s'est passé, je pense que Antoine Guillot voulait sans doute y venir tout à l'heure, c'est l'arrivée d'un nouveau personnage qui n'est pas un acteur, qui était un curieux personnage, on va dire ça comme ça, qui n'est pas d'une épaisseur dramaturgique absolument imparable. Est-ce que c'est de ça dont vous vouliez parler?
Oui, tout à fait, parce que je voulais clore sur la question Nicolas Maury, leur ami qui vient du théâtre, mais qui vient aussi d'un cinéma français contemporain.
Qui les a vus au théâtre et qui les a fait venir.
Mais on les voit sur les écrans depuis 4-5 ans dans des comédies burlesques, les films de Peredjatko et autres. Et cette modernité cinématographique se retrouve grâce à eux dans la série. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, du personnage donc de Hicham Janowski, joué par Assad Bouab, le nouveau patron, celui qui a fait fortune à Londres et qui arrive sûr de lui, pervers narcissique et avec une fonction qui a l'air quasiment purement scénaristique, tout en ne dévoilant pas ce qui arrive au personnage d'Andrea, mais qui arrive un peu à marche forcée de manière très 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 caricaturale, joué de manière
ce qu'on lui demande.
et tout d'un coup il a l'air de venir d'ailleurs, c'est-à-dire de ne pas être du tout dans cette série. Alors évidemment c'est difficile d'arriver sur une seconde saison avec des personnages qui ont déjà une épaisseur, mais toute la subtilité qu'on trouve, toutes les fêlures qui sont chez ces personnages, lui n'existe jamais. Alors sans doute que ça vient de ce problème qu'on a besoin de lui pour faire avancer à marche forcée l'histoire et l'évolution des personnages, parce que 6 épisodes c'est quand même pas possible quand on a cette épaisseur et toutes ces potentialités là. Donc on sent effectivement, comme le disait Iris tout à l'heure, qu'on avance et que les personnages bougent beaucoup trop vite. Alors je ne sais pas, vous qui êtes spécialiste des séries, allez pouvoir nous expliquer pourquoi on n'est pas capable de faire des saisons de 12 épisodes. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'on a du mal, ils ont du mal à avoir autant d'invités, de guest stars qu'ils voudraient. Je trouve ça quand même assez curieux qu'on n'ait pas cette capacité en France de produire réellement ce qu'on aime dans la série, c'est-à-dire une évolution lente des personnages qui se sédimentent et qui peuvent se complexifier au fur et à mesure des épisodes.
Oui, le réservoir est grand. Romain Burel, une réponse.
C'est des questions d'écriture, quoi, concrètement, aux États-Unis, sur des séries qui font, enfin, des saisons qui font 24 épisodes, vous avez plusieurs équipes d'auteurs différentes qui travaillent sur plusieurs...
Non mais 12, on ne parle pas tout de suite de 24, mais 12.
Et c'est la même chose pour la production des séries, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont... Les tournages, il y a plusieurs tournages en même temps qui sont effectués, ce qui fait que les acteurs passent d'un set à l'autre et on peut tourner beaucoup plus vite
d'un plateau à l'autre.
Pourquoi on ne le fait pas en France? Mais parce que c'est une question de moyens, ça coûte à peu près 3 fois plus d'argent, tout simplement, quand vous avez 3 équipes d'auteurs qui travaillent, ou alors 3 équipes de tournage, forcément, vous multipliez le coût de la série par 3, et l'économie des séries en France étant ce qu'elle est, c'est pas encore tout à fait possible. Ce qui veut dire que la prochaine série de 10%, on la verra que dans 18 mois.
Et elle fera que 6 épisodes, vous croyez?
Je pense qu'elle fera peut-être 6 ou 10 ou 8 épisodes, pas plus, effectivement.
Et c'est ce qui est dommage, parce que je pense que justement, le lancement du premier épisode de la saison 1, on était à 4 800 000 spectateurs. Là, on est à 3 300 000. Ça veut dire qu'il y a 1 500 000 spectateurs qui ont disparu dans la nature. Et je pense qu'en fait, en France, le problème d'avoir ces longues plages où on ne retrouve pas ces personnages à qui on s'est attaché, on les oublie. Et donc, c'est vraiment. Il y a un problème dans la production. Je pense que le problème de l'écriture, je pense qu'il est pas là, parce que je pense que c'est des scénaristes vraiment super. Je pense qu'il faut, que France 2 peut-être se mette un peu à niveau, et en tout cas pour qu'on les retrouve plus rapidement, pour que ça dure, pour qu'on ait une saison 3 et qu'on les attende.
Ouais. Il faudrait que ça dure plus longtemps en diffusion et que ce soit plus régulier. En effet, la saison, elle est en plus, ils en passent quoi, 2 par 2 ou pas?
2 par 2.
Ouais. Donc,
ça va très vite.
C'est cramé, disons-le, comme ça, en 3 semaines. C'est quand même un petit peu aberrant. Il faut attendre 18 mois pour la suite. Non, il y a un souci. Ce qui nous empêche pas de ressentir cet air frais pour 10% de Fanny Herrero, qui est en cours de diffusion, donc, sur France 2.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, The Americans et les témoins, mais tout d'abord Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Le sujet du soir, assez logiquement, concerne les séries.
Oui, les séries. Le Festival des séries, Festival international des séries télévisées en France, il y a un mois. tout juste le monde des séries a donc vécu l'épilogue d'un micmac à la Dallas, titre Alexandre Hervaux dans Libération le 29 mars, 4 jours après l'annonce par le ministère de la Culture de l'attribution de ce nouveau festival à Lille, finaliste contre Paris. Il détaille comment presque toute la presse s'amuse à qualifier cette décision sous le nom de série à rebondissement, tant depuis le premier rapport en 2015, elle a suscité de sollicitations, missions, réunions et tractations. C'est donc Game of Thrones pour Télérama, la violence en moins, mais avec des enjeux effectivement considérables, concurrencés Berlin, Venise ou Londres, raison pour laquelle le ministère semble avoir mis les moyens en débloquant 1 million d'euros et en prévoyant une organisation rapide en juin 2018. Il fallait le faire et rapidement car la concurrence des États-Unis, de l'Angleterre ou de la Scandinavie montait, rapporte la Voix du Nord citant le ministère de la Culture. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France risque de se retrouver avec 2 festivals, voire plus, si la presse fait preuve en effet de tant de créativité verbale, c'est que tout vient du processus de choix changeant effectué par le ministère, au départ clairement porté sur Paris, en étendant le festival Sérimania, dont la directrice était l'auteur du rapport, choix qui s'est ensuite transformé en appel d'offres dans la transition ministérielle en 2016 entre Fleur Pellerin et Audrey Azoulay. Or, des 3 villes évincées de la finale, Cannes n'a pas accepté et a annoncé la création en avril 2018 de son propre festival, appelé à devenir le premier festival international de séries, a lancé comme un défi son maire, David Lisnard, lors d'une conférence de presse au début du mois. Mais alors, même si du côté de Lille ou du ministère on ne commente pas, voilà 2 festivals ouvertement concurrents, un du ministère, un autre à Cannes, avec comme partenaire Canal+, le puissant exposant Ride aussi, le MIP TV et puis Fleur Pellerin comme directrice du festival et une sorte de pied de nez au ministère. Le résultat, c'est que ce que Lucille Comeau a appelé la dernière fois, c'est un imbroglio politique et géographique se résout dans une concurrence géographique nord-sud de 2 festivals qui n'existent pas encore. De plus, leur organisation sera plus rapide. Pour Lille, dans le détail, tout reste à organiser, reconnaît Sébastien Leroy dans La Voix du Nord. Mais pour le ministère et le CNC, la centralité européenne de Lille est un atout. On en sait un peu plus aussi. Le budget est de 4,4 à terme 5 millions d'euros. On sait que le but est de développer les tournages dans les Hauts-de-France. L'heure est à la recherche de partenaires, cependant, confirme Libération. Un certain nombre de professionnels aussi ont été associés, dont Anne Landois, la showrunner d'Engrenage, ce blockbuster international français. Il y a aussi les festivals Sérimania, j'en ai parlé, et Série à Fontainebleau qui devrait continuer à servir de conseil. Bref, on tente de coller au projet d'un événement voulu au départ par Audrey Azoulay, je la cite, à l'image du festival de Cannes, mais ce festival n'a toujours pas de nom. Et puis du côté de Cannes Série, justement, qui a trouvé son nom, David Lisnard persiste et signe, comme le dit la Tribune avec force détail d'ailleurs, un budget comparable à peu près au Festival de Lille, d'au moins 4 millions d'euros, un festival sur 7 jours, je cite encore David Lisnard, à la fois grand public et professionnel, glamour et populaire, 200 projections, la possibilité de voter par Internet. Bref, l'événement serait aussi, c'est intéressant, la base d'un projet de développement économique, un grand pôle d'industrie créative, des formations en partenariat avec UCLA. 2 projets donc assez différents. Rencontreront-ils le succès? Y aura-t-il concurrence? Reste aussi la question de ces autres festivals. Le FIPAD Biarritz qui a 30 ans, Luchon presque 30 ans, Série à Fontainebleau, j'en ai parlé. Des inquiétudes se sont fait entendre récemment sur le financement de Sérimania, c'était la 8e édition. Sérimania dont les 750 000 euros reçus par le CNC constituent quand même 1/3 du budget. Or, toute la question est de savoir si le festival peut continuer à exister sans le soutien de l'État, explique Marina Alcaraz dans Les Échos. Et du côté de Sérimania, peut-être la pilule est dure à avaler, mais le ton ne monte pas, nuance Libération, expliquant que de toute façon, le festival collabore avec Série. Alors verra-t-on Kevin Spacey ou encore les dragons de Game of Thrones dans les rues de Béthune en 2018 demander la Voix du Nord? Peut-être, mais ce festival ne risque-t-il pas de faire d'abord des dommages collatéraux?
Ah, voilà des questions. Vous avez donné le nom de la présidente du festival de séries de Cannes, il me semble pas. Hein, dans...
La présidente Fleur Pellerin.
Fleur Pellerin, voilà. Non, c'est pour faire plaisir à Antoine Guillot qui aimait tellement parler de Fleur Pellerin quand il était en charge de la revue de presse, La Dispute. C'est sa star à lui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon, la vraie question c'est, Iris Bray, Romain Burel, Quelle équipe vous a approché, en fait, pour participer à ces festivals? Vous pouvez nous le dire, Iris.
Donc, il faut déjà dire que Sérimana vient de se terminer, que c'était une édition absolument géniale.
Vous y étiez, c'est pour ça.
Pas seulement. Et que, par exemple, quand j'ai interviewé Damon Lindelof, qui était le président du jury cette année, donc le showrunner de Lost, je lui ai demandé pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être jury cette année. Il m'a dit, j'avais envie de venir à Paris. Et c'est revenu plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a vu Aziz Ansari, qui était là pour déguster des mets dans des restaurants à Paris parce qu'il adore manger. Il s'est retrouvé.
On mange bien à Lille. Voilà.
Je ne pense pas que.
Si, je vous assure qu'on mange bien.
Non, mais c'est-à-dire que d'avoir des stars comme ça, d'avoir Jennifer Aniston qui arrive à la première des Leftovers, je ne pense pas qu'à Lille on aura Jennifer Aniston.
C'est une heure de TGV.
Il va falloir convaincre les gens. En tout cas, je trouve que déjà Sérimania.
Vous n'avez pas été approché par Lille, vous restez à Sérimania, c'est ça. Faites l'info du soir.
Je trouve que c'est en tout cas Sérimania a encore prouvé avec cette édition qu'ils avaient une exigence artistique et aussi qu'ils savaient rassembler les gens. Donc j'ai hâte d'être à l'année prochaine.
Bon, Romain Burel, dont tu sais qu'il aime les plages, le soleil et les palmiers et les paillettes.
C'est Cannes qui vous a approché. Je suis consterné par ce gâchis. C'est-à-dire qu'on a un festival qui marche très très bien, de mieux en mieux, d'année après année, qui conclut avec un nombre de spectateurs records, qui attire énormément de gens qui font des séries, qui viennent de partout. Le nom est installé maintenant dans la profession, ce qui est très très long à faire, le plus difficile à faire. On a un festival qui est ouvert aux spectateurs, c'est-à-dire que c'est pas un festival pour les professionnels, ce qui est gratuit. Et on a ce magnifique gâchis orchestré par un ministère qui, de toute façon, dans un mois, ne sera plus là. Donc, je comprends pas. Je trouvais que la palme de l'indécence, c'était d'annoncer ça juste avant que le festival Sérimania commence. Alors là, franchement, ça montre qu'on a vraiment rien à faire de savoir ce qui se passe au niveau de la création en France. Parce que franchement, c'était ni fait ni à faire.
Mais David Lisnard, le maire de Cannes, fait partie des noms qui circulent pour les ministres de la Culture. Vous savez,
c'est
un Romain Burel.
Très bien, mais toujours est-il que c'est dommage d'arriver en se disant qu'on n'est même pas peut-être en poste, que déjà on commence à défaire des choses. Donc ça,
c'est une rumeur parmi d'autres. C'est un nom.
Et effectivement, moi, je suis très attaché à Sérimania aussi. D'ailleurs, le festival est pas enterré, concrètement, parce que j'ai vu passer un tweet de...
On le défendra. Vive Sérimania.
J'ai vu passer un tweet de Bruno Julliard, qui était au moins aussi dithyrambique que vous, qui disait vivement la saison 9 de Sérimania encore plus forte.
Oui, donc, pas du moins que ça coûte pas trop cher à la ville de Paris, ils sont toujours pour.
Alors c'est ça le problème.
On a souvent parlé aussi de l'action culturelle de la ville de Paris, aller au secours de gens qui marchent, d'événements qui marchent bien. C'est bien, il faudrait surtout s'occuper de ceux pour qui ça va moins bien. Parenthèse fermée.
Maintenant, moi, j'ai pas de snobisme particulier vis-à-vis de la ville de Lille.
Ah.
Par contre, je trouverais ça effectivement dommage que ça se fasse à Cannes. Enfin, on va voir comment ça va se passer à Cannes. De toute façon, ce festival se fera. Je ne sais pas avec qui, en termes d'équipe de programmateurs. Et c'est là le nerf de la guerre. C'est-à-dire qui va sélectionner ces séries-là. C'est un boulot titanesque. Il faut avoir des gens rapides qui ont des contacts dans la profession et qui font ça très très bien. S'ils ont pas encore de programmateurs, à ce que je sache, que ce soit à Lille ou à Cannes.
Ils vous ont pas encore appelé?
Non. Je pense que je l'aurais su si jamais.
Le problème du gâchis, c'est que ça peut être des accords, évidemment, d'exclusivité avec
certaines chaînes
américaines.
Mais il y a déjà des chaînes aujourd'hui qui sont assez réticentes à proposer des contenus à Sérimania. Il y a déjà gens avec qui il y a des tractations, avec qui c'est plus compliqué. Et finalement, on arrive quand même à les voir venir à Sérimania.
Parce que les autres n'existent pas encore. S'il y a un festival HBO là, un festival Netflix là, enfin, ce serait absolument absurde. Et là, pour le coup, le gâchis serait complet.
Et c'est... Je pense qu'on va vers cela.
On risque de s'y acheminer. Antoine Guillot, cette question des...
D'autant si Canal+ est partenaire d'un festival, on y verra en avant-première les séries achetées par Canal+.
C'est terrible.
C'est déjà problématique à Cannes, festival de cinéma, la présence de Canal+ pour l'instant, parce que on ne sait pas combien de temps ça va durer. Après, on voit bien les intérêts qu'il y a, c'est-à-dire entre Lille qui veut chanter la vertu des décors dans...
On va parler des témoins.
Dans le Nord, et on va parler des témoins, oui. Cannes qui veut étendre encore un peu plus sa saison touristique. Après, c'est vrai que quand le ministère s'en mêle, mais je crois que c'est ce que j'avais dit la dernière fois qu'on en avait parlé, le désastre est quand même à peu près assuré.
Ouais.
C'est-à-dire que tout ce qui est conçu par des cabinets technocratiques, pour des raisons qui nous échappent en plus assez largement, c'est-à-dire qu'on voit, comme je disais, l'agenda du Nord ou de Cannes, qu'est-ce qui se joue derrière de rancœur, le retour de Fleur Pellerin, est quand même assez, assez spectaculaire pour ça.
Non, mais si le ministère voulait entériner le fait que Série Mania soit le grand festival annuel, il fallait pas faire toute une procédure qui amène à cette absurdité.
Et puis, il y avait un désaccord politique très fort à Paris qui ne permettait pas la tenue de ce festival, contrairement au consensus qu'il y a eu entre Xavier Bertrand et Martine Aubry pour Lille.
Oui, mais quand les pouvoirs publics appuient une initiative qui a fonctionné, comme c'est le cas donc avec Série Mania, qui a fait preuve de sa capacité à agir, c'est ce qu'on attend d'un pouvoir public. Quand se crée ex nihilo un festival, on a à peu près la certitude d'avoir un bel éléphant blanc qui finira par mourir de sa belle mort avec des gâchis de plusieurs millions d'euros. C'est pas pour être de mauvais augure, mais enfin l'histoire des politiques publiques et culturelles, c'est quand même là pour le montrer.
Vous avez Martinet ?
C'est pour ça que je reviendrai sur cette question du gâchis. Effectivement, on ne sait pas comment ce festival lillois va être organisé. Peut-être, puisque c'était l'idée au départ, avec la participation des équipes de Série à Fontainebleau ou Série Mania. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Il n'y avait pas d'article sur la question. Cependant, sur la question du gâchis, c'est vrai qu'il y a d'autres festivals en France qui vivent plus ou moins bien du fait d'être des festivals de télévision et pas seulement de séries, notamment le FIPA à Biarritz. On peut se demander si, avec ces deux gros festivals existants peut-être et à coup de financement forcé au départ, on n'aura pas le risque de voir disparaître un des deux petits, justement.
Enfin petit. FIPA est grand pour l'instant.
Et maintenant que le Festival international du film de Cannes se met également à
montrer des séries.
Tout cela se complexifie.
Ouais. Romain Burel, encore un mot.
Non, si ce n'est que j'ai très peur qu'effectivement, et la qualité et la quantité de séries proposées lors de ces festivals en France soient vraiment diminuées dans les prochains mois, enfin dans les prochaines en tout cas, quoi, parce qu'on va vers quelque chose d'assez dramatique, ce qui est super dommage, notamment pour les équipes de Série Mania, je n'imagine pas aller travailler à Lille ou à Cannes, parce qu'on parle de gens qui sont tout à fait parisiens et que je n'imagine pas partir comme ça se délocaliser.
Synergie Lille. Pourquoi pas ? Pour emmener Jennifer Aniston en TGV, mais s'il est accompagné par vous, Iris Bray, peut-être qu'elle ira. Bon, en tout cas, on vous l'aura annoncé, ce gâchis à venir, et on espère être là pour suivre l'avancée de ces différents dossiers. Et la deuxième série à notre affiche ce soir, The Americans, c'est la saison 5 qui est en cours de diffusion. Alors, je ne la connaissais pas il y a 2 mois, enfin je ne l'avais pas encore vue, j'en avais beaucoup entendu parler. Depuis, je suis tombé dedans, avalant 4 saisons et bien sûr les épisodes en cours de la 5e saison. Un point de départ assez simple, on est en pleine guerre froide quand l'URSS décide d'infiltrer des agents secrets sur le territoire des États-Unis. On les forme très jeunes, on les fait arriver très jeunes sur place pour qu'ils mènent une vie d'Américains ordinaires. Donc c'est ce qui est arrivé en 1965, sauf erreur, à Philippe et Elizabeth Jennings, ça c'est leur nouveau nom bien sûr, qui dirigent une agence de voyage, qui ont 2 enfants, des enfants qui ignoraient évidemment tout au départ des activités de leurs parents, mais la saison 3 nous révèle que l'URSS, jouant le coup d'après, souhaite que les enfants désinfiltrés à la couverture en béton puissent un jour, à leur tour, progresser, donc intégrant la CIA, le FBI ou d'autres. Et en l'occurrence, Paige, c'est la fille aînée du couple d'espions, apprend la vérité sur ses parents. Parents qui frôlent quand même de plus en plus le burn-out. Ils ne dorment jamais. Hein, le KGB leur demande tout le temps des missions extrêmement nombreuses et extrêmement périlleuses. Voilà pour un résumé à grands traits de The Americans, dont la 5e saison est annoncée comme l'avant-dernière. Il faut dire qu'on s'avance dans les années 80. Décennie dans laquelle se déroule l'action depuis le début. Et nous, on sait bien que le mur de Berlin va tomber. Hein.
I can't sleep at night. I have nightmares. I wish this were simple.
She can't handle this.
It's gonna get worse.
They're kicking us while we're down. They're not gonna stop. One day.
The world seems so messy right now.
There are things we can show you.
You're going to get him killed.
I advise you to leave it alone.
Nothing scares those two.
Everything scares those two.
You have to be willing to do anything to protect yourself.
The Americans premieres Tuesday, March 7th on FX.
Eh oui, il est passé du temps depuis le 7 mars, le début de cette diffusion de la saison 5. Iris Bray, The Americans, quelle place dans votre cœur
de... La série magistrale depuis le début, c'est une série absolument extraordinaire, je trouve, sur le couple, sur la double vie, sur parce que tout le monde a des doubles vies, et puis on en a tous des doubles vies, et on a aussi tous des anxiétés qui arrivent avec cette double vie. Ça peut aussi être le voisin de ce couple qui lui-même est agent du FBI, et du coup, enfin, il y a un travail autour de la duplicité que je trouve absolument extraordinaire, et cette idée qu'un couple au début ne s'aime pas, c'est-à-dire que c'est des agents qui sont mis ensemble, et on voit au cours des
missions, ce sont des agents en mission.
En mission, voilà, et on voit finalement ces liens amoureux qui se tissent devant nos yeux, avec des scènes de sexe aussi absolument incroyables, parce qu'elles racontent des choses sur où ils en sont dans leur intimité et dans leur sentiments. Enfin, je trouve que c'est une série dont on ne se lasse pas et qui est extrêmement profonde. Enfin voilà, c'est comment est-ce que finalement le rêve américain se construit, et au lieu d'avoir une série voilà sur la banalité des gens heureux, on voit comment la norme est quelque chose sur laquelle il faut travailler au quotidien. Et je trouve que dans cette dernière saison, le rapport mère-fille, et d'avoir une mère qui apprend à sa fille à mentir, qui apprend à sa fille comment être espionne, je trouve qu'on n'a jamais vu ça, et j'adore.
J'adore. Antoine Guillot, The Americans.
Alors moi, j'étais complètement néophyte dans The Americans, et j'ai fait l'expérience, par manque de temps aussi, d'entamer directement par la saison 5. C'est-à-dire en me renseignant à peu près sur ce qui s'était passé avant, mais découvrant, voilà, cette saison, où ils en sont, et qu'est-ce qui arrive. Alors, au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre que les différents personnages que je voyais étaient en fait les mêmes, c'est-à-dire que les postiches sont suffisamment bien faits pour qu'au début, ça raconte l'histoire de combien d'espions, juste. Et puis une fois que j'ai compris le principe...
Le roi de la perruque.
L'enthousiasme d'Iris ne m'a pas encore vraiment habité, quoi. Ni atteint. Sans doute qu'il faut avoir vu ce qui se passe depuis le début, et n'ayant vu que 6 épisodes de cette nouvelle saison, je trouve tout ça un peu laborieux pour le moment, et un peu systématique dans le déroulé. C'est-à-dire qu'on a systématiquement une mission à faire, donc chaque épisode, une mission plus ou moins, alors qui va suivre, voilà, mais ils ont quelque chose à faire, et puis le reste du temps, on est dans le mélodrame familial, histoire d'adolescente à problème. Alors c'est encore plus problématique quand on a découvert qui étaient ses parents, et que déjà les parents n'aiment en général pas trop qu'on ait un petit copain, mais quand en plus on risque de lui révéler des choses, ça devient d'autant plus compliqué. Mais je trouve ça très... Alors, c'est tout le contraire de 10% qui allait trop vite tout à l'heure. Là, ça va excessivement lentement, d'autant que chacun des personnages se pose en permanence des cas de conscience très aigus, mais quel que soit le côté. C'est-à-dire que c'est aussi bien l'agent du KGB qui a été rapatrié au pays, que celui du FBI qui a peur pour son agent du KGB, parce que la CIA voudrait en profiter pour le faire un peu...
Pour le retourner.
Pour le retourner. Et à chaque fois qu'ils font quelque chose, alors ça peut aller de simplement mentir à sa fille ou au voisin, ou tuer quelqu'un, on se dit oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais alors est-ce que... Alors c'est encore plus compliqué pour ces héros complètement neurasthéniques, que l'URSS à ce moment-là va très mal, qu'ils ont de plus en plus de doutes à défendre le pays, qu'on est dans les problèmes c'est pas encore la famine, mais enfin il y a des gros problèmes alimentaires à ce moment-là. C'est vraiment le moment dans les années 80 où l'URSS est en train de s'effondrer économiquement, ce qui donnera Gorbatchev, ce qu'on va voir arriver. Je ne sais plus, on est en quelle année là, on
84.
84, voilà. Donc dans 2...
5, non?
Excusez-moi,
j'ai envie d'entier américain.
Dans 2 ans, Gorbatchev arrive et tout ça va se terminer.
Oui, regarde les JO, c'est
on vrai, a des gens qui sont fondamentalement gentils. C'est ce que je trouve assez intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas des personnages clairement identifiés comme le méchant d'un côté.
C'est moins qu'on puisse dire.
De tous les côés, c'est très renoirien. Chacun a ses raisons d'agir. Mais alors, on se prend beaucoup la tête sur pourquoi. Et ça donne quelque chose. Alors, sans doute que tout d'un coup, il va se passer quelque chose au mi-temps de la saison, et qu'enfin on va être pris, mais pour l'instant ça avance très posément dans un glacis soviétique. Après, c'est assez amusant la manière dont les années 80 sont soigneusement reconstituées, notamment comme les personnages ont des postiches sans arrêt. Ça permet d'explorer toutes les modes vestimentaires et capillaires de l'époque, notamment avec le personnage féminin qui fait un éventail comme ça de toutes les manières de porter les cheveux dans les années 80.
Philippe aussi,
et ça est très bien. Alors lui,
il a des fringues insensées aussi.
Entre
les moustaches et les favoris et les diverses moumoutes, c'est assez. Voilà, c'est pas une série qui m'enthousiasme autant, mais sans doute qu'il faudrait que je recommence à zéro.
C'est possible, je m'exprimerai peut-être sur la question, à moins que Romain Burel, avant, ne dise ce que j'avais envie de dire.
D'accord, moi il y a deux choses que j'aime particulièrement dans cette série. D'abord, il faut saluer que sur 5 saisons, d'en avoir aucune plus faible que les unes que les autres, c'est quand même assez rare. Je trouve que c'est vraiment une série qui est vraiment réalisée avec brio et qui nous tient en haleine sur 5 saisons, ce qui est assez rare, sans ventre mou. Et ça tient peut-être notamment à son showrunner et créateur qui s'appelle Joe Westberg, qui est un ancien de la CIA, qui était un analyste de la CIA, donc il connaît tous ces trucs-là, qui a énormément apporté son expérience personnelle dans la série. Et d'ailleurs, c'est même la CIA qui lui aurait soufflé en fait l'idée de ce scénario, puisqu'en fait, c'est un jour où il devait passer le test au détecteur de mensonges, où il aurait dit, où il y aurait une question de la CIA qui était vous ne faites pas cette formation pour prendre des notes et pour éventuellement écrire dessus après. Il n'y avait jamais pensé. Et là, il s'est dit, mais c'est vrai que c'est pas bête.
Et oui, c'est mais comme grâce ça à The Americans et à Nina, qu'on regrette, on sait comment passer le test du détecteur de mensonges. On ne dira rien, mais ça implique une partie de son anatomie.
Donc, ce qui vient lester l'intrigue de choses d'espions qui sont assez intéressantes, etc., mais qui, moi, ne me passionnent pas énormément. Moi, ce qui me passionne vraiment, c'est vraiment l'histoire de ce couple. Qu'est-ce qui reste du couple quand il n'y a pas un amour, quand l'amour ne préexiste pas, quoi. Et je trouve ça fabuleux, leur rapport. Et il y a notamment dans cette saison, il y a une discussion à un moment donné sur quand le personnage de la femme se fait approcher par un homme un petit peu plus, là, il y a cette discussion de savoir, mais voilà, comment on fait pour parler à la personne avec qui on vit, sans plus risquer de se faire dégommer, parce que quand même concrètement on peut pas s'ouvrir. Il y a quand même derrière, c'est quand même le KGB, qu'il y a quand même des choses, il y a des risques qu'il faut pas prendre. Et c'est vrai que la transmission avec cette fille qui grandit, on se dit que c'est juste incroyable. Et pourtant c'est vrai, c'est-à-dire qu'en plus la série s'est nourrie d'énormément de choses vraies, comme le programme des illégaux, qui étaient donc des espions dormants qu'on a arrêté les derniers en 2010.
En 2010, crois, absolument. Ouais. Alors, ce qui est vrai, et ce que je pense que vous avez raté, Antoine, en commençant par la saison 5, c'est que on assiste vraiment à beaucoup de choses dans les 4 premières saisons, ce qui est assez normal, vous me direz. Mais à la naissance de personnages, à la naissance d'un amour, la construction d'un amour, parce qu'au départ, ce sont vraiment des machines. Hein. Les deux, saison 1, ils sont là, ils ont des missions, ils les font. Il n'y a justement aucun questionnement. Ce sont des machines froides. Et puis, ce qui fait l'intérêt de la série, c'est qu'il y a des doutes chez l'un, chez l'autre, sur leur relation. Il y en a un qui tombe amoureux de l'autre, mais pas encore réciproquement. Et puis, c'est l'inverse. Il y a séparation, retrouvailles. Et donc, c'est très beau de voir la naissance d'un amour. On voit des gens qui tombent amoureux, en fait. Ça prend quand même un certain temps. Parce qu'effectivement, oui, les choses vont lentement. Moi-même, j'ai mis sans doute la moitié de la première saison à vraiment être complètement impliqué dedans. Après, je peux vous assurer que c'est une drogue dure quand même, The Americans, et que c'est cette histoire de la construction d'un couple, après ça devient l'histoire de la construction d'une famille, ce qui est un très très vieux thème, hein, comment est-ce qu'on peut s'aimer bien qu'on soit de la même famille, et donc c'est quand même de ça qu'il s'agit aussi. Après, il y a quand même une dimension politique qui est importante sur la diabolisation de l'autre, quelque autre que ce soit, et donc ça, voilà, il faut qu'il y ait un grand méchant, et donc c'est comme ça qu'on peut faire des choses mal, mais le discours est évidemment réversible. Et puis moi, je trouve que c'est une série aussi très très drôle, parce qu'on est quand même le plus souvent dans une absurdité de situations qui sont quand même, je pense qu'il y a vraiment cette volonté-là d'humour dans l'écriture, Romain.
Qu'on avait déjà connu. Moi, c'est une série qui me fait penser beaucoup à Dexter, c'est-à-dire comment sauver, comment
moi, je passe à côté de
construire une vie qui n'existe pas, et comment préserver les apparences. Ce qui était vraiment les deux thèmes de Dexter. C'est vraiment quelque chose qui, moi, la série me fait énormément penser à cette série-ci.
Ouais, mais humour, amour, on a tout ce qu'il nous faut, Iris Brain.
On a tout, et en plus, ce que je trouve intéressant avec cette saison 5, c'est que justement, de passer vraiment sur le côté familial et d'avoir cette fille Paige qu'on voit grandir. C'est-à-dire qu'il y a peu de séries qui ont fait ça. On voit ça avec Mad Men et le personnage de Sally. On voit ça dans Masters of Sex avec la fille de Virginia Johnson qui devient assez âgée pour finalement draguer Bill Masters.
On a ça dans 24 aussi.
Voilà, mais
envie de les baffer généralement, quand même. Mais,
oui, mais évidemment.
Non, mais parce que c'est ça que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ce que pointait Antoine Guillaume, c'est que personne n'est aimable dans cette série. Tantôt on est pro-Philippe, tantôt pro-Elisabeth, et puis en fait on change sans arrêt, parce qu'ils sont tous quand même
complexes
et peu aimables.
Oui, mais c'est justement, je pense, que pour pas être dans cette dichotomie du bien et du mal qui fait que c'est, ça devient une très grande série et d'avoir ce personnage de Paige qui annonce quand même à ses parents qu'elle croit en Dieu, ce qui est quand même l'insulte ultime pour eux.
Des communistes,
et du coup,
c'est
ils se disent voilà, qu'ils ont quand même raté l'éducation de la progéniture.
Oui, c'est mais comment on tourne ça en disant oui, elle est comme nous, il faut qu'elle ait une croyance, il faut qu'elle ait la foi en quelque chose.
Donc, en même temps, elle a un pasteur qui lui fait lire Karl Marx, donc tout va bien.
Oui, ça a été un long chemin pour y arriver, Antoine.
Antoine, il va falloir reprendre.
Antoine, on va refaire l'émission dans quelques mois. Ou on la fera pour la saison 6, allez savoir, qui sera la dernière. Ça, c'est bien. Ça nous fait de la peine déjà. Et en même temps, je trouve que c'est beau de savoir que, on espère que ce sera vraiment le cas, qu'il y a une dernière saison qui viendra après celle-ci, qui vont clore leur récit.
La seule chose que j'espère, c'est que ça se termine mal. J'aimerais pas avoir
le dur
fin.
Va tomber. Ouais. Et est-ce qu'ils vont tomber aussi? Ou est-ce qu'ils vont tous partir aux Maldives avec leur voisin de la CIA?
Paige va rester. Mais il faut dire aussi, j'ai lu une interview justement, parce qu'il y a un deuxième showrunner qui s'appelle Joel Fields, et c'est vraiment un duo.
C'est un binôme. Hein.
C'est un binôme.
Ils vivent ensemble, visiblement.
Hein. Quasiment. Ouais. Et c'est intéressant aussi qu'on ait ça avec Admar et Herpou en France, pointez-moi. Je vous ai fait votre transition.
Ah d'accord, alors je dis juste The Americans.
Si on prend l'histoire dont c'est inspiré, elle a été arrêtée, puis libérée dans un cadre d'échange d'espions, et elle est revenue en héroïne saluée par Poutine à son retour en URSS.
Absolument.
Enfin, pardon, en Russie, il paraît que ça s'appelle.
Oui, maintenant c'est la Russie. The Americans, la saison 5, est en cours de diffusion en France sur Canal Plus Série.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et en effet, le troisième sujet de cette dispute série ce soir, c'est une autre production de France 2, après 10%. Les Témoins, là encore une première saison qui a été bien reçue, qui a permis de renouveler le pari pour le tandem Hervé Admar, Marc Herpou, qui ont déjà à leur actif Les Oubliés, Pigalle de la Nuit, Signature au-delà des murs. Ils nous ont clairement dit que c'était aussi inspiré du succès des séries nordiques comme Braun, ou The Killing. Les Témoins qui se passent dans les Hauts-de-France, ça ne vous aura pas échappé, Romain Burel, pour cette saison 2. C'est le Tréport, la saison 1. Mais là, c'est Lille et environ dans la saison 2. Alors, allez savoir pourquoi tout un commissariat a été déménagé du Tréport à Lille. Ça, c'est pas dans le scénario. Mais enfin, on retrouve l'excellente Marie Dompnier en flic intrépide et impliquée. Également son collègue, Justin, interprété par Yann Amenecker, qu'on avait vu récemment dans Beau Séjour. Et puis après, Thierry Lhermitte dans la saison 1, c'est Audrey Fleurot qui donne cette fois la réplique à Marie Dompnier, la relation des deux femmes n'étant pas l'élément le moins intéressant de cette saison. Notons que 72 pays ont déjà acheté cette saison 2 des Témoins.
C'est un mec, il choisit des femmes, il les enlève. Et il supprime tous les mecs qu'elles ont connus avant lui.
Mais à chaque fois, les enfants qui disparaissent...
Je t'ai dit que je voulais pas entendre parler de cet enfant.
Il est vivant, je le sais.
Il est mort, il n'a plus besoin de toi.
Et cette femme-là qui dessine des U dans son hôpital psychiatrique depuis 40 ans, tu crois qu'elle sait des choses?
Quelqu'un a déposé un flacon de parfum chez moi. Celui qu'on cherche a décidé de s'en prendre à moi. On m'a vu, il m'a choisi.
Qui c'est ce type?
Résonance, qui c'est ce type? C'est Antoine Guillot qui prend la parole.
Mais oui, qui c'est ce type? C'est vraiment la question qui va revenir à plusieurs reprises. On a un personnage assez étonnant dans cette série, qui est le commissaire, la commissaire, Judith Henry dans cette saison. L'an dernier, c'était Catherine Mouchet.
Oui. Mais c'est le même rôle, ça fait partie
du
série. Qui
est là pour incarner le questionnement du spectateur. C'est-à-dire, il y a un côté série pour non-comprenants. De temps en temps, on fait le point. Où est-ce qu'on en est?
C'est bien dit, il faut
et
dire.
Et alors, la commissaire va dire, mais tu peux me dire qui a fait ça? Ben non, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on enquête. Et alors, ces moments sont extrêmement embarrassants et je trouve que c'est assez à l'image de la série, au dialogue remarquablement mal écrit. Il y a un côté extrêmement vieillot dedans. Après, la région Hauts-de-France ne peut que se féliciter d'avoir financé ce film qui montre de belles vues aériennes de tous les...
Cette série,
qui montre de très belles vues aériennes des différents très jolis recoins de cette région, avec une intrigue qui me semble ne jamais fonctionner. C'est-à-dire, c'est tout à fait improbable. C'est très étonnant ce personnage qu'on nous décrit comme affligé de TOC, donc complètement obsessionnel, et puis ça disparaît complètement une fois qu'elle doit poursuivre le scénario, faire des choses qu'aucun policier, même de série...
Je dis qu'elle était intrépide.
Oui, c'est ça. On dira qu'elle est intrépide. Donc voilà, qui est très non, bonne pour faire des enquêtes sur Google ou dans les archives municipales. Mais j'ai vu ça avec un ennui qui était doublé aussi de quelque chose d'assez déplaisant, parce que je trouve qu'il y a un vieux fond réactionnaire dans cette série sur dénonçant d'une certaine façon les expériences un peu pédagogiques qu'il y a pu y avoir dans les années 70. Il y a une sorte d'anti-intellectualisme sourd qui dans cette saison qui vraiment voilà me donne un goût assez un peu amer.
Ah d'accord, j'avais pas perçu ça, ça m'intéresse beaucoup. Vous développerez peut-être dans un instant. Iris Bray,
non, parce que sinon
témoin.
Je dévoilais la fin de la série.
Je partage à peu près cet avis. En fait, non. C'est-à-dire que moi, en commençant, je suis totalement prise. J'ai très peur, j'ai très envie de savoir qui est ce type qui donc congèle tous les hommes qu'a connu Audrey Fleurot. Après, j'ai vraiment été déçue par la fin parce que je trouve que il y a une formule en fait et ils veulent absolument, enfin, Admar et Herpou veulent tout nous expliquer. Et je trouve ça, pourquoi ne pas jouer un peu avec l'imaginaire de la personne qui regarde? Pourquoi ne pas rentrer juste dans le mystère et laisser des choses un peu flotter? Parce qu'on a tellement recours, soi-disant, à la mythologie, à des choses à la figure de l'ogre, à des choses qu'on a beaucoup vues, ce qui était déjà le cas dans la saison 1 avec le petit chaperon rouge, mais je trouvais ça un peu plus fin. Là, je trouve qu'on n'a pas besoin de tout expliquer, en fait, et je trouve que c'est difficile. Après Beau Séjour, en fait, parce que moi, je pensais beaucoup à Beau Séjour, du coup, en regardant cette série-là, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, justement, entre donc Sandra et son partenaire masculin, mais aussi la commissaire, mais aussi le personnage donc de Catherine Keener. Enfin, je trouvais qu'il y avait pas de relation qui m'intéressait vraiment, et la relation entre les deux femmes qui, au début... il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Je pense qu'elle pourrait se teinter d'un peu plus d'ambiguïté. Et on reste un peu à la surface. Et je rejoins aussi Antoine. Je trouve que c'est assez conservateur sur toute la question de la maternité. On a l'impression qu'ils veulent dire quelque chose. Et puis, en fait, on en revient à une espèce d'instinct maternel qui habite le personnage et qui, finalement, se réduit à ça. Et je trouve ça très dommage, puisque, finalement, la question de la maternité, de qu'est-ce que c'est que de porter un enfant, de l'abandonner, de le retrouver, ça aurait pu avoir peut-être un peu plus d'épaisseur. Et là, on a l'impression qu'il faut vraiment aller vers une résolution qui va plaire à tout le monde et que tout le monde va bien comprendre.
Romain Burel.
Alors moi, j'étais
les témoins.
Excessivement content de me débarrasser de Thierry Lhermitte pour cette saison 2. Donc déjà, je trouvais qu'il y avait une promesse en tout cas. Je vous trouve un petit peu dur avec les personnages féminins. Je trouve assez intéressant que dans une série française, justement, il y ait beaucoup de personnages féminins, qu'en l'occurrence, ce soit elles qui tiennent un peu le haut du pavé, même si effectivement, je trouve que leur psychologie n'est pas hyper fouillée et qu'on tombe sur des choses qu'on a déjà retrouvées. Maintenant, c'est compliqué parce que de faire avancer le côté polar en France dans les séries où on a eu, enfin c'est quelque chose qu'on parlait de Maigret tout à l'heure, on en est là en fait, c'est-à-dire que concrètement en France aujourd'hui on n'a pas fait énormément d'efforts pour progresser de ce côté-là. Je trouve que la série apporte quand même quelque chose, notamment il y a des vrais partis pris, notamment esthétiques. Je trouve que je la trouve assez réussie esthétiquement dans ces gris, on est dans une colorimétrie très très froide, etc. Moi elle me plaît assez esthétiquement. Effectivement, après, du côté des scénarios, ça pêche un peu. Je trouve que il y a une belle promesse, en tout cas, avec ce personnage de femme qu'on voit aussi se démener un petit peu avec sa vie de femme, avec sa fille, avec une ado pas évidente, etc. C'est un peu plus fin que ce qu'on a pu voir, notamment dans d'autres séries, mais on reste au milieu du pont, on traverse pas effectivement de l'autre côté.
Oui, tout est relatif parce que s'il y a un mieux, effectivement, on est en droit où on serait en droit d'attendre. Beaucoup mieux. La dimension explicative, hein, vous l'avez tous dit, mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui est extrêmement gênant. C'était le cas dans la saison 1, on le retrouve là. Il faut tout le temps, toujours tout expliquer et tout redire. Enfin, c'est vraiment extrêmement pénible. C'est quand même pas très compliqué d'en faire un peu l'économie. Bon début. Là encore, je rejoins Iris Bray. Et puis, une résolution... Alors, sur le fond idéologique, je suis pas sûr de tout à fait vous rejoindre, Antoine. Je vois bien ce que vous voulez dire. Moi, je trouve surtout qu'elle est un peu navrante et un peu bâclée, un peu pas du tout à niveau, ce qui est quand même dommage dans une série policière. Évidemment, on a envie qu'il y ait une résolution qui soit à la hauteur. Après, c'est la question, oui, de la famille. Qu'est-ce qui fait famille? Qu'est-ce qui fait groupe? La question biologique, la question de la maternité, de la sororité, etc., etc. La famille biologique et la famille choisie. Alors, pour le côté positif, je note quand même que pour le meilleur, ce sont les comédiennes et les comédiens qui viennent, encore une fois, donc du monde du théâtre, qui assurent les principaux rôles de cette série. C'est vrai que, du coup, Thierry Lhermitte paraissait complètement hors sol dans la saison 1. Il jouait d'une autre façon,
totalement.
Que je ne qualifierais pas. Mais il ne jouait pas en tout cas comme ses partenaires de jeu là, parce que vous avez cité Judith Henry, Marie Dampny, Audrey Fleurot, Ian Hanemaker, jusqu'à Serge Merlin, qu'on voit à la fin de la saison, grande figure du théâtre français. Donc ça, c'est quand même un bon réservoir à fiction. Puis moi, c'est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup Marie Dampny. Je pense qu'il y a, un potentiel dans ce personnage et qu'effectivement, je vous rejoins, Iris, un peu plus d'ambiguïté, un peu plus de profondeur ferait tellement de bien.
Parce que je pense qu'Admar et Herpoux, ils ont prouvé à la télévision française et à quasiment toutes les chaînes qu'ils savaient faire, c'est-à-dire que c'est maîtrisé. Donc là, je pense qu'on peut vraiment passer à quelque chose de différent. Et de la série qu'ils avaient réalisée pour Arte, Au-delà des murs, qui était dans 3 épisodes, était vraiment pas mal, je trouvais. On allait vers quelque chose d'un peu plus...
plus fantastique, assumé.
Exactement. Et là, ça manque terriblement. Pourquoi pas montrer le quotidien d'une mère de famille qui se retrouve célibataire, mais on peut vraiment aller, je pense, maintenant ils peuvent s'amuser.
Ouais, il faut qu'ils s'amusent. Antoine, Guillaume.
Oui, puis faire des personnages à qui il arrive réellement des choses. C'est-à-dire que il y a un principe où on a l'impression d'une remise à zéro à chaque épisode. Enfin, il y en a quand même qui se reçoivent une balle dans l'épaule, d'autres qui se coupent les veines et tout ça. L'épisode d'après, on est fringant et on continue. Et le problème, c'est que psychologiquement, c'est le cas aussi. C'est-à-dire que les personnages n'évoluent pas et tout ce qu'il y avait comme promesse, parce qu'ils voient, effectivement, ils voient large, ils ont de grandes ambitions et tout ça s'effondre au fur et à mesure. Par manque de rigueur, moi j'ai l'impression.
Romain, conseil pour les showrunners. C'est quoi le québécois pour showrunner? Parce qu'il faudrait que je mette à jour mon dictionnaire franco-québécois.
Je serais bien embêté de vous le dire, mais...
Conducteur de show, de série, meneur de jeu.
Mais moi je me demande si, en fait, quitte à déménager, il n'aurait pas fallu changer le casting, en fait, et partir sur complètement autre chose. Parce que je pensais à True Detective, en fait, notamment.
Bah,
la saison 2, elle est ratée.
Je pense qu'eux aussi, ils y pensent beaucoup à True Detective.
Mais en l'occurrence, je me demandais, quitte à déménager, pourquoi pas nous faire pénétrer dans un autre commissariat et une nouvelle, et passer à d'autres interactions, entre guillemets.
À Cannes, par exemple, après Lille.
Ça ne marcherait pas beaucoup. Mais en l'occurrence, je trouve que, ils ont peut-être un petit peu, ils sont peut-être pas tout à fait en phase avec ce personnage féminin-là, qu'il fallait peut-être aller chercher un petit peu ailleurs.
C'est compliqué de faire 2 saisons de suite des intrigues où il s'agit de cadavres qui sont disposés. On a l'impression qu'ils ont voulu reprendre, c'était ça déjà dans la première saison, on mettait des cadavres dans des maisons de témoins, donc là on les met des cadavres dans un bus, où iront les cadavres dans la saison 3 ?
Écoutez, si vous avez des suggestions, vous pouvez écrire à La Dispute. On transmettra à Marc Herpoux, Hervé Admar, les meneurs de jeu de la série Les Témoins, dont les 2 saisons ont été diffusées et qui seront disponibles dans les jours qui viennent en DVD. Il y a la 2e saison ou le coffret des 2 saisons pour revoir Thierry Lhermitte. Ça, c'est pour faire un cadeau, bien sûr, à Romain Burel. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute, on commence par un rappel du jeu d'hier au soir, Justine Dibling. Question, réponse.
Quelle est la société de production cinématographique de Barbet Schroeder qui l'a créée avec Éric Rohmer en 1962? Et la réponse était...
Antoine Guillaume. Film du losange, évidemment. Film du losange, c'est bien, on fait jouer Antoine. On va pas lui demander la réponse au jeu de ce soir, ce serait dommage. On fait gagner le DVD du film Visite ou Mémoire et Confession de Manuel de Oliveira, diffusé et distribué par Epicentre. La question?
Et donc, en ce 25 avril, on se demande quelle est la ville où se trouve la maison dans laquelle Manuel de Oliveira a tourné son film Testament, Visite ou Mémoire et Confession.
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, sur la page de La Dispute, un site sur lequel vous pouvez également nous réécouter, podcaster nos émissions, nous écrire aussi sur la page La Dispute FC sur Facebook. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Je serai avec Corinne Rondeau et Florian Guettet à notre affiche Valentin de Boulogne au Musée du Louvre. Peter Campus, c'est au Jeu de Paume. On évoquera plus rapidement également Anne Millet à la galerie Marianne Goodman et Carole Douillard et Dora Garcia à la galerie Michel Rhin. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.